séparer. C'est ça qui est dit la dernière fois, que vous pourriez peut-être nous expliquer quelques-uns des problèmes d'une commune et d'un district.
C'est
de cela que...
C'est ça, vous voulez m'entretenir.
Oui.
Alors écoutez, ce qui aurait peut-être été très bien, c'est que si vos questions avaient été préparées, de les envoyer d'avance.
Elles le sont, effectivement.
Il y a eu deux jours, j'aurais pu un peu y réfléchir, au lieu d'improviser complètement. Enfin, tant pis.
Là, je ne sais pas, on croit, nous, que...
Vous préférez que ce soit spontané.
Oui,
quitte à ce que nous bégayions un petit peu.
Puisque nous faisons surtout une étude de la langue, il vaut mieux que cela soit spontané.
C'est ça, oui.
Puisque c'est la langue parlée qui nous intéresse.
C'est ça, oui.
Alors vous risquez peut-être de trop préparer.
Oui, bien sûr, mais la...
on espère que c'est sûrement un sujet que vous connaissez.
Oui, bien sûr, ce n'est pas un sujet surprise pour moi, mais sûrement. Oui. Sûrement. Oui. Alors ben voilà, je me soumets à la question.
Oui. Alors, nous le mettons d'abord du point de vue des étudiants anglais qui ne savent pas enfin très bien ce qui se passe dans un hôtel de ville. Est-ce que vous pourriez commencer en nous expliquant un peu quelles sont vos fonctions et comment vous voyez votre rôle à la mairie?
Alors, vous savez qu'en France, l'organisation municipale est régie par une loi qui s'applique à la totalité du pays et qui est unique pour toutes les communes. Les communes étant aussi bien un village de 150 habitants que la ville de Marseille. Seul Paris a un régime spécial. Paris n'est pas administré selon le système communal. Il est administré d'une façon particulière, par des lois spéciales, et à la tête de Paris, il y a un préfet, qui est un haut fonctionnaire du gouvernement, et un conseil municipal qui décide, mais le conseil municipal élit un président qui se contente de diriger les débats, mais l'administration de la ville de Paris est entre les mains d'un préfet et de services qui sont nommés par le ministère de l'Intérieur et non pas par ni le conseil municipal, ni le président du conseil municipal. Alors c'est en gros le système de Paris. Alors par conséquent, nous n'en parlerons plus, puisque c'est une exception dans la situation française. Mais pour toutes les autres communes, qui sont au nombre, comme on sait, de 38 000 en France, et là, c'est-à-dire plus qu'il n'y en a dans toute l'Europe du marché commun, plus l'Angleterre, plus la Suisse et plus la Suède, le régime municipal est identique, avec quelques petites différences qui ne sont pas des différences de principe, mais des différences, si j'ose dire, quantitatives. Par exemple, dans une grande ville, il y a plus d'adjoints au maire qu'il n'y en a dans une petite, bien sûr. Cela dit, l'administration communale est sur le plan de la loi, appartient d'une part au conseil municipal, qui est l'assemblée élue, et d'autre part au maire, qui est élu par le conseil municipal. Le conseil municipal, comme le dit la loi, règle par ses délibérations les affaires de la commune. C'est-à-dire que tout ce qui doit être fait dans une commune doit être décidé par le conseil municipal. Le maire est l'agent d'exécution des décisions du conseil municipal. C'est son rôle essentiel. Mais il a des fonctions propres qui ne dépendent pas du conseil municipal, qui font de lui plutôt un représentant de l'État qu'un agent du conseil municipal, qu'une émanation du conseil municipal. L'essentiel de ses pouvoirs, ce sont les pouvoirs de police. les règlements de police sont pris par le maire, personnellement. C'est lui qui a les pouvoirs de police. En ce qui concerne ce qu'on appelle la police municipale, qui fait l'objet d'un certain nombre d'articles de la loi municipale. La loi municipale en France est une loi du 5 avril 1884. Elle est donc très ancienne, elle a subi des modifications. Mais l'esprit de l'administration municipale est resté le même. L'esprit de la loi est resté le même. Les modifications n'ont pas apporté de modifications sensibles. Cette loi est d'ailleurs, a été fort bien faite à l'époque, et maintenant, on s'en rend compte, dépassée et n'est plus adaptée aux besoins. Alors il y a des projets de réforme de cette loi qui ont été étudiés par le précédent gouvernement, mais le français est extrêmement conservateur, et il est d'autant plus conservateur en fait qu'il est plus progressiste dans l'affirmation de ses opinions. Je le dis très objectivement, mes opinions se situent plutôt du côté progressiste. Pour employer un mot très général, bien entendu. Mais enfin, c'est ainsi. Et c'est très difficile de modifier des tas de choses en France, parce qu'il y a une résistance des petites communes, qui sont extrêmement nombreuses, et qui voient dans les projets de modification de la loi municipale et de rationalisation de la vie municipale un peu l'amorce de leur disparition. Voyez-vous. Alors, une parenthèse, pour en revenir à l'exposé objectif du fonctionnement municipal, donc le maire a des pouvoirs propres qui sont les pouvoirs de police essentiellement. Il a le pouvoir lui-même d'agent de police judiciaire. Le maire peut constater des infractions. Il peut procéder à l'arrestation de délinquants. Il a le droit. C'est pratiquement un pouvoir qu'il n'exerce jamais. Mais dans la loi, c'est prévu et il peut le faire. En tout cas, les pouvoirs de police municipale lui appartiennent. Par exemple, la réglementation de la circulation dans une ville, c'est le maire qui en est le maître. Et il n'a pas à en rendre compte à son conseil municipal. Ce sont de ses pouvoirs propres. Il est aussi ce qu'on appelle en France officier d'état civil. C'est-à-dire que c'est le maire qui procède aux actes qui constituent l'état civil des Français. Par exemple, l'enregistrement des naissances, la célébration des mariages et l'enregistrement des décès, c'est le maire qui en a la charge. Bien entendu, ce sont les fonctionnaires qui le font à sa place, mais au nom du maire, et les signatures appartiennent toujours, sauf exception, au maire ou à ses adjoints. Alors donc, d'un côté, le conseil municipal, le maire avec ses pouvoirs propres, et le maire avec ses fonctions d'exécution des décisions du conseil municipal. Ce sont évidemment ses fonctions essentielles. L'acte essentiel du conseil municipal, c'est évidemment le vote du budget. Tous les ans, comme dans les autres pays, bien sûr, on vote le budget, qui est un terme anglais d'ailleurs, qui vient d'ailleurs d'un mot français, je ne sais pas si vous le savez.
Oui,
c'est ça, d'un vieux mot français, le mot bougette.
Oui, oui. Le mot bougette. Les questions linguistiques sont intéressantes.
Oui. Alors que les Anglais nous ont emprunté au Moyen-Âge et qu'ils nous ont restitué ensuite, puisque nous avons emprunté beaucoup de termes de comptabilité, de technique budgétaire, puisque les Anglais ont connu bien avant la France, par le parlementarisme, la rigueur et le contrôle démocratique des dépenses, qui n'existaient pas avant France, avant la Révolution. Donc le budget municipal est voté par le conseil municipal. Il est proposé par le maire. C'est le maire qui est chargé de l'établir, puis de le proposer au conseil municipal, qui a le droit de le modifier, bien entendu, dans les discussions. Et lorsqu'il est voté par le conseil municipal, il est exécutoire à une condition, c'est d'être soumis à l'autorité de tutelle. Alors ça, je vous en parlerai tout à l'heure, car c'est un point très important dans la vie municipale française. Les autres actes essentiels de la gestion municipale, ce sont la réalisation des projets, qui sont d'ailleurs compris dans le budget, car le budget est un acte par lequel, comme le dit la loi, sont prévues et autorisées les dépenses d'une année. Alors ces dépenses concernent d'une part le fonctionnement normal des services municipaux existants, le paiement des fonctionnaires, les crédits nécessaires à l'entretien des bâtiments, l'entretien des routes, etc. Et puis, ce qu'on appelle les investissements, c'est-à-dire les créations de choses qui n'existent pas. C'est-à-dire la construction d'immeubles, d'écoles, de lycées, de bâtiments administratifs, de bâtiments à usage social et à usage culturel, la création de nouvelles voies, l'extension de l'éclairage public, tout ce qui ressort de l'administration d'une ville, pas du tout particulier à la France, on retrouve les mêmes problèmes dans tous les pays. Alors, dans le cours de l'année, c'est le maire qui est chargé de l'exécution de ces prévisions-là, de préparer les études pour y parvenir et de proposer au conseil municipal ensuite l'acceptation des projets, ainsi que des marchés avec les entrepreneurs qui doivent les réaliser. Le rôle du maire est donc considérable. Il est considérable. C'est en somme le pouvoir exécutif de cet État, de ce petit État que constitue la ville, dont le pouvoir législatif est le conseil municipal. Alors, il y a un aspect sur lequel je vais passer rapidement, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, c'est l'aspect de la tutelle. La Constitution de 1946, pour la première fois, a dit que, la Cassette Europe en 1958, a dit que les collectivités locales, les collectivités territoriales exactement, c'est-à-dire les villes et les départements, sont libres de s'administrer dans le cadre des lois qui les régissent. Elles sont libres, en effet, mais elles sont en liberté très surveillée. C'est-à-dire que pour la plus importante partie des décisions qui sont prises par le conseil municipal, d'une part, et par le maire personnellement, d'autre part, vraiment, nous subissons le contrôle de l'autorité de tutelle qui est le préfet, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur en France est chargé du contrôle général des collectivités locales et il est représenté dans chaque département par un préfet qui lui-même est assisté de sous-préfets dans les arrondissements. Alors les décisions du conseil municipal, pour la plus grande part, pour les choses les plus importantes, sont donc soumises non seulement au contrôle, mais même à l'approbation du préfet. Et cet acte est extrêmement important parce que tant que la décision n'a pas été approuvée par le préfet, qui exerce ce contrôle, qui demande des renseignements, des justifications, les actes tels que les marchés, par exemple, ne sont pas valables. Un entrepreneur qui entreprendrait un travail avant d'être assuré que le marché qui lui a été confié est approuvé par le préfet, risquerait en cas de non-approbation de ne pas pouvoir être payé. Et le maire qui aurait commandé le travail aurait fait une faute administrative qui pourrait être sanctionnée administrativement par la suspension, par la révocation ou même par des poursuites pénales s'il y avait un aspect délictueux dans ses agissements. Et là, cette sanction est grave et elle est insurmontable parce que la caisse de la ville, la trésorerie de la ville, est entre les mains d'un fonctionnaire de l'État qui s'appelle le receveur municipal. Le receveur municipal est maintenant un agent du Trésor nommé par le ministre des Finances et cet agent du Trésor ne procède au paiement des dépenses que dans la mesure où il a la certitude qu'elles ont été engagées, comme on dit, car c'est le terme, engagées d'une façon régulière. C'est-à-dire que la décision du conseil municipal a été prise dans des formes régulières et qu'elle a été approuvée par le préfet ou le sous-préfet d'une manière normale.
Vous permettez que je vous en prie. Une question là-dessus.
Oui.
Est-ce que le receveur participe lui-même à la préparation du budget ?
Non. Non, il n'y participe pas. Il n'y participe pas, tout au moins dans les grandes villes. Dans les grandes villes, il n'y participe pas. Il est chargé uniquement de la comptabilité, c'est le comptable de la ville. C'est lui qui tient les recettes, l'argent. Le maire, ni bien entendu les fonctionnaires, n'ont absolument pas le droit de procéder à des paiements eux-mêmes. C'est une défauté plus grave qui existe en France dans l'administration que de procéder soi-même à un paiement, que de manier les fonds municipaux, d'avoir les fonds municipaux à sa disposition. C'est une faute extrêmement grave et il y a un organisme qui contrôle tout cela très sévèrement, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, dont l'origine remonte à Philippe le Bel, d'ailleurs, sous le XIVe siècle, mais qui a été mise dans la forme où elle existe actuellement par Napoléon Ier, comme beaucoup de choses en France d'ailleurs. Alors, c'est un aspect qui est important, ce qu'on appelle la séparation de l'ordonnateur, c'est celui qui commande les dépenses, et du comptable, c'est celui qui les règle. L'ordonnateur, c'est le maire, et le comptable est un agent, comme je vous ai dit, nommé par le gouvernement, qui a lui-même la disposition de la caisse de la ville. Bien entendu, la caisse de la ville, en réalité, les fonds de la ville, d'ailleurs, sont déposés obligatoirement au trésor public. Le ressort municipal est tenu de faire des versements réguliers, ne peut conserver par devers lui qu'une somme très peu importante. Il doit régulièrement verser caisse publique ou la trésorerie générale les fonds qu'il reçoit ces fonds sont comptabilisés à un compte spécial de la ville au trésor public. Nous avons donc par conséquent une limite d'action qui est assez étroite et qui est très sévèrement contrôlée à la fois sur le plan administratif et sur le plan comptable.
Et vous semblez même sentir que c'est un contrôle un peu trop strict ?
Oui, alors le contrôle de la comptabilité n'est pas est une chose qui est assez normale parce que il faut bien qu'il y ait un contrôle sur les fonds car il faut éviter les abus, les malversations, les malhonnêtetés, bien entendu, nous sommes dans un domaine où la rigidité est indispensable, où la rigueur est indispensable. Les choses s'arrangent en général sans trop de difficultés selon le caractère des personnes. Voyez-vous. Lorsque nous avons affaire sur le plan de la tutelle administrative à un préfet qui est compréhensible, qui n'est pas chicanier, qui a l'esprit assez large, bien les choses vont assez vite. Si on a affaire à quelqu'un au contraire qui épluche les affaires de très près, qui est tatillon comme on dit, alors les choses peuvent aller beaucoup plus difficilement. Qui est autoritaire, qui prétend par ce biais-là se mêler des affaires de la commune, ce que nous avons connu, car tous les maires ont connu ça, toutes les villes ont connu ça au cours de leur vie, des préfets qui sont de ce caractère-là, alors les choses vont moins bien, et il y a quelquefois des conflits qui sont d'ailleurs pas sans recours, parce qu'il y a toujours des juges. Et c'est un point sur lequel d'ailleurs il est bon tout de même de dire quelque chose, les décisions aussi bien du maire que du conseil municipal sont toujours susceptibles de recours, soit de la part des citoyens de la ville, soit de la part de l'autorité du préfet. Car le préfet peut annuler certaines décisions, mais d'autres, il ne peut pas les annuler. Il est obligé d'avoir recours aux tribunaux administratifs qui existent en France. Ils sont deux ordres, le tribunal administratif qui siège, il y en a un par région, il y en a un à Orléans, et le Conseil d'État qui est l'organe suprême administratif, le tribunal administratif supérieur, qui est la plus haute juridiction française, et qui est une juridiction d'une qualité d'ailleurs tout à fait exceptionnelle. Le Conseil d'État était certainement une des gloires de l'administration française, et c'est une création napoléonienne également. Alors, il y a ce recours également contre les décisions municipales, non seulement le préfet par sa tutelle, mais également les tribunaux administratifs qui peuvent annuler les décisions qui sont illégales, irrégulières et qui n'ont pas été prises conformément aux lois. Ce recours est ouvert à tous les citoyens d'une manière très libérale et à la fois aussi très économique. Donc les libertés publiques sont en France très sauvegardées par ce biais-là. Alors ça, c'est l'administration générale. Et alors j'ajoute, j'en ai dit un mot en passant, que le maire est assisté dans ses fonctions par des adjoints qui sont des conseillers municipaux élus également par le conseil municipal, auxquels il attribue les attributions, il donne les attributions qui lui conviennent. Le maire peut n'en donner aucune. Il peut donner celles qu'il veut et il peut les révoquer comme il veut. Le maire seul en est juge et non pas le conseil municipal. la totalité des attributions exécutives de la commune sont entre les mains du maire. Alors il peut les déléguer après. Et dans les grandes villes, c'est indispensable, puisque, alors là nous allons arriver au problème qui me concerne plus particulièrement, au terme de la loi municipale, seul le conseil municipal existe et seul le maire existe. Les emplois dans une mairie sont... Il y est fait tout juste quelques allusions dans la loi municipale. Mais c'est tout. Le mot du secrétaire général, qui est le premier fonctionnaire municipal, n'est prononcé qu'une fois dans la loi municipale à propos d'une affaire extrêmement secondaire. C'est la notation du personnel. Tous les ans, le personnel doit avoir une note. Il est dit, chaque agent est noté par le maire sur la proposition du secrétaire général. C'est comme ça que le mot secrétaire général a été introduit dans la loi municipale. Mais vous savez que, pour avoir une comparaison, qui évidemment n'est pas très modeste, mais que dans la constitution de 1875, qui a régi la République française de 1875, par conséquent 1940, le mot de président de la République a été introduit comme ça d'une façon tout à fait subreptice, n'est-ce pas ? Et c'est comme ça qu'on est en République. Mais ça n'a pas la même importance du tout. En ce qui nous concerne, c'est pas du tout la même chose.
Non, j'allais te demander, enfin, si vous voudriez nous dire comment vous voyez votre rôle.
Oui, alors maintenant j'y viens, n'est-ce pas ? Alors le secrétaire général est, comme le disent les instructions, parce qu'il y a la loi, mais il y a des textes à côté de la loi. Vous avez des décrets, des arrêtés et des instructions ministérielles qui précisent le fonctionnement des institutions communales. Alors, les instructions ministérielles, ainsi que les décrets, les arrêtés, bien entendu, fixent la composition du personnel municipal. Les communes sont libres aussi, mais sur ce plan-là également, dans une certaine limite. Selon leur importance, les communes ne peuvent procéder à l'organisation de leurs services que dans des limites fixées par des textes ministériels, du ministère de l'Intérieur, en accord d'ailleurs avec le ministère des Finances, car le ministère des Finances a en France la prépondérance sur tous les autres ministères. Et pour ces problèmes-là, le ministère de l'Intérieur ne peut donner des instructions ou prendre des textes comme des arrêtés ou des décrets à plus forte raison. Vous savez qu'en France, il y a trois catégories de textes réglementaires. Il y a l'arrêté, qui est la forme la moins solennelle. Il y a le décret, qui est pris dans les conditions fixées par les ordonnances constitutionnelles, qui sont des textes importants. Et puis il y a la loi, qui a la suprématie, dans le cadre de la Constitution, bien entendu. Dans notre régime, on appelle au point de vue le roi la suprématie de la loi. Bien. Alors, donc, une seule loi, la loi du 5 avril 1884 pour les communes, et puis des textes d'application, décrets pour les choses importantes, arrêtés pour les choses moins importantes, et inscriptions ministérielles pour les choses de détail. Eh bien, l'organisation des services municipaux est prévue en détail par les textes ministériels. C'est-à-dire que chaque commune est obligée de rentrer dans un cadre qui lui convient selon son importance et qu'en principe elle ne peut dépasser. Alors, dans chaque commune, il y a au moins un secrétaire qui s'appelle secrétaire purement et simplement dans les communes de moins de 2000 habitants et qui devient général, secrétaire général dans les communes de 2001 habitants jusqu'à 1 million, si l'on veut, tout le monde après est secrétaire général. Bon, le secrétaire général est, comme le disent le texte, le principal collaborateur du maire. Et il faut savoir aussi qu'il est dans les attributions du maire et du maire tout seul de nommer les agents, les employés de la commune. C'est le maire seul qui le nomme. Le conseil municipal n'intervient pas, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, comme l'Allemagne, que je connais mieux que le vôtre, ou dans le régime que je connais tout au moins, les principaux, et dans les autres aussi, car il y a plusieurs régimes selon les Länder en Allemagne, les principaux chefs de service sont nommés par le conseil municipal. En France, le conseil municipal n'intervient absolument pas. Il n'a pas à intervenir et le maire n'a pas à lui en rendre compte. C'est le maire qui le nomme, mais il ne nomme pas à sa fantaisie. Il ne nomme que dans les limites que le texte réglementaire lui donne et selon des procédures qui lui sont également indiquées par les textes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nommer n'importe qui à n'importe quel emploi. Pour un emploi comme le mien, par exemple, il faut posséder des qualifications universitaires, professionnelles, qui sont strictement indiquées, et c'est parmi les personnes possédant ces qualifications que le maire peut nommer. De même qu'il doit nommer avec sur concours en général. C'est pas sur concours, c'est de rouvrir le poste et de provoquer des candidatures et faire, à l'aide d'une commission de concours, faire procéder à une désignation qui sera celle de ceux qui semblent les plus qualifiés pour remplir le poste qui était à pourvoir. Voilà comment les emplois sont nommés. Alors, il y a deux catégories d'emplois, des emplois administratifs, à proprement parler, et puis des emplois techniques, qui sont les emplois d'ingénieur, de contremaître, d'adjoint technique, enfin de différents grades, bien entendu. Le secrétaire général est le chef de toute l'administration municipale, sous l'autorité du maire. Et sous l'autorité du maire, une autorité qui est absolue, parce que le secrétaire général n'a aucun pouvoir personnel de décision. Tout au moins réglementairement. Le maire qui voudrait ne pas avoir de secrétaire général n'est pas du tout obligé d'en avoir. Ce n'est pas une obligation. Il pourrait s'en passer, il pourrait dire « moi, je n'ai pas besoin de secrétaire général, je fais le travail tout seul ». Il pourrait même, évidemment ça serait absurde dans une grande ville, mais il pourrait n'avoir aucun fonctionnaire. Il pourrait décider qu'il fait avec ses adjoints le travail lui-même, et cela arrive. Dans des petites communes, ce sont des choses qui arrivent. Le maire dit, je n'ai pas besoin de secrétaire, je n'ai pas grand-chose à faire, je le fais moi-même, je m'en arrange. C'est rare, mais enfin, il faut avoir le temps. Mais enfin, c'est une hypothèse qui est un peu absurde, mais qui n'est pas, qui théoriquement n'est pas impossible. Donc, le secrétaire général dans une ville n'a pas de prérogatives réglementaires propres. Je ne dispose pas de la signature pour aucun acte. Je ne peux pas engager la commune pour rien. Je n'ai pas le droit de signer une lettre, une lettre signée par le secrétaire général n'aurait pas de valeur. Je n'ai pas le droit de procéder à la nomination d'une personne, ni au changement de carrière qui existe, les avancements, les changements de grade, des choses comme ça. C'est le maire seul qui en a le droit, ou les adjoints qui délèguent pour cela. Bien entendu, c'est la théorie. Alors, le rôle du secrétaire général est donc, en principe, d'exécuter les ordres du maire et de préparer le travail pour le maire, de façon que le maire puisse saisir le conseil municipal ou prendre les décisions qu'il a à prendre. C'est évidemment, d'ailleurs, très vrai, c'est très vrai. C'est ainsi. Mais, en fait, dans une ville d'une certaine importance, eh bien, le maire est obligé de laisser au secrétaire général une très grande latitude dans son travail. Et ça dépend aussi du caractère du maire. Il y a des maires qui sont des personnes confiantes, qui ne sont pas compétentes sur le plan de la technique administrative, car un maire peut être un excellent administrateur, avoir des idées très justes sur l'avenir d'une ville, sur ce qu'il faut entreprendre, sur son expansion, mais ne pas connaître du tout les rouages administratifs, les procédures, le travail, la technique administrative, qui est un travail très important et qui devient de plus en plus complexe maintenant que le volume des affaires est important et que l'on met en œuvre des organismes, des administrations de plus en plus diversifiées avec lesquelles il faut avoir des rapports qui sont tous réglés, bien entendu, par des textes, par des conventions qui sont toutes de nature juridique. Et là, il faut que ce soit des spécialistes qui s'en occupent. Alors ça, c'est le rôle des fonctionnaires municipaux. De même que le maire ne peut pas faire un projet technique, c'est pas lui qui fera un projet de redressement de voirie, de construction de bâtiments, ce soit nos architectes propres, les fonctionnaires que nous avons, soit des techniciens que nous avons, avec lesquels nous passons des conventions, qui font, et le maire ne peut que dire oui, ça me convient, ça ne me convient pas, le conseil municipal aussi, mais c'est pas lui qui peut faire ce travail non plus. Alors, par conséquent, les tâches qui appartiennent à l'administration et au secrétaire général sont donc très vastes. Et le secrétaire général a pour tâche de coordonner l'ensemble de l'activité municipale et d'assurer que les décisions du conseil municipal et celles du maire sont exécutées. Et d'en rendre compte au maire et de préparer également les décisions qu'il doit proposer à son conseil municipal, bien entendu avec ses collaborateurs. Voilà le rôle du secrétaire général dans la ville.
Oui, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, vis-à-vis du public, est-ce que vous voyez votre rôle différemment? Nous avons
oui.
entendu en même temps qu'il y avait des personnes qui attendaient vous voir.
Oui. Oui, bien sûr, parce que le maire ou ses adjoints ne sont pas ici en permanence. D'autre part, ils ne connaissent pas les problèmes dans les détails. Ils ne connaissent pas, puisque ce n'est pas leur métier. Ils ont tous un métier. Dans un joint, il y en a un qui est pharmacien, l'autre qui est commerçant en textile, un autre qui... Il y en a deux qui sont avocats, il y en a deux qui sont employés de bureau dans des usines, je ne sais plus encore. Il y en a un qui est commerçant, nous avons un colonel en retraite, également un militaire. Donc ce sont des gens dont le métier n'est pas l'administration, ceux qui auraient plus de connaissances étant encore des avocats. Ce sont des gens qui peuvent très bien connaître les problèmes municipaux, mais qui ne connaissent pas les techniques. Alors, bien entendu, nous avons donc des relations avec le public. Et alors, d'autant plus que, pratiquement, en raison du rôle que joue le secrétaire général et du fait que le maire concentre entre ses mains la plus grande partie des pouvoirs municipaux, même s'il en délègue à ses adjoints, et que les relations entre le maire et le secrétaire général sont constantes, le maire se décharge sur le secrétaire général, en fait, d'un très grand nombre de tâches, et même d'un très grand nombre de décisions qu'il prend à sa place, cela étant plus ou moins valable selon les situations locales. Tel maire en conserve en contraire beaucoup, d'autres s'en déchargeant davantage, selon le temps, selon son métier, selon son tempérament. Ici, à Orléans, le maire fait beaucoup confiance à ses collaborateurs et au secrétaire général en particulier, en ce qui concerne en particulier les problèmes de gestion du personnel, d'organisation des services. Un des rôles essentiels du secrétaire général, c'est de veiller à la bonne marche des services, des bureaux, des différents organismes qui travaillent pour la ville, et d'exercer un rôle de surveillance, de contrôle et même de discipline. Bien que le pouvoir disciplinaire n'appartienne pas au secrétaire général, il appartient au maire uniquement. Le maire seul a le droit d'infliger des sanctions disciplinaires, mais toujours sur la proposition du secrétaire général et selon également des procédures qui donnent des garanties aussi, de façon que l'arbitraire n'intervienne pas.
Nous avons lu dans une étude consacrée aux communes qu'il y a un problème pour le personnel administratif des communes, c'est le problème de l'âge. Je crois que les statistiques nationales sont que 40% du personnel administratif des communes, enfin des hôtels de ville, a plus de 45 ans. Est-ce que tel est le cas à Orléans?
Je pense que la... Oui, c'est possible. C'est très possible. Je vous avoue que je n'ai pas cette étude, mais pas mis sous les yeux, et que c'est un genre de préoccupation. De problèmes que je n'ai jamais abordé et que je ne connais pas personnellement. C'est possible parce que les limites d'âge du personnel sont de 18 à 60 à 55 selon certains emplois, pour des emplois pénibles par exemple, les emplois des boutiers par exemple, ou de chauffeurs de poids lourds, de chauffeurs de véhicules lourds, d'engins lourds, 55 ans ou 60.
Oui.
C'est la limite de 60 ans pouvant être prolongée jusqu'à 60. 3 ou 65 ans selon les cas, selon les charges de famille et selon certaines choses. Et ce qui fait qu'il est très possible que l'âge moyen du personnel, mais enfin, ça ne me semble pas du tout anormal. Personnellement, je pense que c'est assez normal. Vous savez, quand on travaille 65 ans, il est aussi normal que la moyenne d'âge soit celle-ci dans une administration que dans une autre branche, que dans une autre branche d'activité. Voyez-vous, alors, je ne crois pas que ça, à mon avis, ça n'est pas un problème, ça. Ce n'est pas un problème. Le problème qu'il peut y avoir, qu'il y a, c'est le problème de la formation du personnel municipal et de la compétence des agents municipaux. Là, c'est un problème certain, parce que, en France, la France est une société, finalement, qui se veut très démocratique, qui a fait la révolution de 1789, comme chacun sait, mais qui est, comme je vous l'ai dit, assez conservatrice, finalement. et qui est aussi, c'est une société très hiérarchisée. Et dans le domaine de, qu'on appelle le secteur public, le domaine administratif, si vous voulez, tout ce qui concerne l'activité publique, eh bien, il y a un degré de hiérarchie aussi qui existe. Hein. Ce qui fait que ce qui est placé au sommet, c'est l'État, et que ce qui est considéré comme étant de première qualité et qui mérite la première considération, ce sont les services de l'État. Et du fait que les communes sont d'ailleurs beaucoup trop nombreuses pour être bien organisées, qu'ensuite les règlements les concernant, en dehors de la loi même, les concernant le fonctionnement des services sont de date relativement récente, et que les communes finalement étaient plus libres de s'organiser il y a 30 ans ou 40 ans qu'elles ne sont maintenant, elles se sont tenues très souvent dans des limites de médiocrité qu'il faut reconnaître, des limites de médiocrité dont elles ont une certaine peine à sortir. Ce qui fait que pour des grades qui devraient être équivalents, en général, il faut le dire parce que c'est vrai, la qualification des fonctionnaires municipaux est moins certaine, en tout cas théoriquement moins exigeante, que celle des fonctionnaires de l'État. C'est une situation contre laquelle on est en train de lutter actuellement et que l'on essaie de redresser de différentes manières. Il faut dire même que l'aide essentielle nous vient de l'État. Les hauts fonctionnaires de l'État, bien entendu, sont tout à fait pénétrés de cette supériorité. Il n'est d'ailleurs pas question, si vous voulez, de les contester. Il est évident que, enfin, jusqu'à présent, les communes n'avaient pas à mettre en parallèle avec, dans leur personnel, des fonctionnaires de la qualification d'un conseiller d'État, par exemple, ou d'un directeur de ministère, ou d'un préfet. Mais nous arrivons à un moment et à une situation où il est nécessaire que dans les villes, en raison du volume des affaires, de leur complexité, de leur importance, et de la nécessité où les villes sont d'avoir les possibilités de régler par elles-mêmes leurs affaires sans avoir recours à des fonctionnaires d'État, il faut à la tête des villes et des grands services municipaux des fonctionnaires de qualification identique. Et nous y arrivons d'ailleurs, nous y arriverons plutôt, parce que même sur le plan national, les services de l'État, les ministères de l'Intérieur en ont conscience et aident à amener à la création d'un corps de fonctionnaires municipaux d'une qualification qui soit comparable à celle de l'État pour des importances de tâches identiques. Il est certain qu'un fonctionnaire comme un secrétaire général d'une ville comme Bordeaux, si vous voulez, ou comme Toulouse, a une tâche administrative d'une importance et d'un poids égal à celle d'un préfet dans un petit département, voyez-vous, dans un département de 200 000 habitants, comme il en existe quelques-uns en France. Il n'a pas les mêmes responsabilités politiques, bien sûr, puisqu'il n'en a aucune. Le secrétaire général n'a aucune responsabilité politique, le maire seul en ayant. Mais il a des responsabilités administratives et d'organisation, et par la force des choses, eh bien, il est obligé, en réalité, il y a beaucoup de décisions à l'intérieur d'une ville qui sont prises par le secrétaire général, quelquefois même sans que le maire en soit avisé. Vous savez, moi je règle tous les jours des choses qui ne sont pas toujours très importantes, bien sûr, mais qui normalement devraient être réglées par le maire. Le maire n'est pas là, il n'a pas le temps d'agir non plus. Donc, je règle l'affaire par téléphone et l'affaire marche quand même parce que personne ne conteste, bien entendu. Je donne des instructions à d'autres services, je corresponds quelquefois même avec les services de l'État, au nom du maire, bien sûr, mais lorsqu'il s'agit que d'instructions d'affaires ou d'échanges de vues, de conversations, pour mettre les choses au point, de négociations, c'est toujours valable. Bien entendu, les choses doivent se régler de façon normale, par un acte, par une convention, ou bien par un contrat, c'est le morceau de la signature, mais je ne peux pas. Alors, voyez-vous, il y a une situation de droit qui fait que le secrétaire général est un personnage qui serait presque inexistant, et une situation de fait qui fait qu'en réalité, eh bien, il a un rôle par la force des choses très importantes. Oui. Oui, allô? Oui? Oui? Oui. Oui. Oui, mais... Si. Mais si, vous n'avez qu'à préparer, demander un ordre de mission, puis on vous donnera, c'est tout. Envoyez-le à Roi directement. Oui, ben, qui y a, puis... Absolument pas. C'est ça. Vous faites une petite note, et puis je la préfère après, par, j'en ferai régler ça par quoi. Hein, c'est ça. Je vous en prie. Au revoir, c'est bien. J'aurais une affaire comme ça. Voilà, c'est le directeur du Conservatoire National, qui est un organisme municipal, mais qui s'appelle National, et qui est un fonctionnaire municipal, qui est déjà un fonctionnaire, c'est le directeur d'un établissement qui a 500 élèves au point de vue de l'établissement musical, qui me demande certaines choses, ben, je vais les faire. voilà, ça c'est un petit exemple. Hein. Voilà, voyez-vous, je crois avoir fait le tour un petit peu des choses.
Oui, merci.
Alors, si ça vous intéresse, je peux vous donner quand même une vue rapide de l'organisation des services municipaux.
Non, on s'intéresserait plutôt à avoir un peu votre opinion personnelle sur certaines autres questions.
Oui, alors si vous voulez me les poser.
Si vous permettez.
Je vous en prie.
Vous avez parlé vous-même d'une hiérarchie dans la société française.
Oui.
Comment est-ce que vous voyez cette hiérarchie?
Eh bien, cette hiérarchie, dans la société, j'entends sur le plan administratif, j'entends pas sur le plan sociologique, bien entendu, ce qui est un problème qui n'est pas le nôtre du tout ici, c'est pas ça. Mais sur le plan administratif, j'avais commencé quand même mon propos en vous disant que ce qui était du ressort de l'État avait évidemment la prépondérance. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les collectivités territoriales, les collectivités locales, c'est identique, qui sont les départements, d'une part, et les communes. Alors, ce qui est du ressort du département, ou de la commune, c'est considéré comme inférieur à ce qui est du ressort de l'État. Voyez-vous, si bien que le directeur de l'administration, le représentant de l'État dans le département, le préfet, c'est le plus haut fonctionnaire, c'est le plus haut personnage du département. Il a le pas sur le plan protocolaire et le plan hiérarchique sur tous les fonctionnaires du département. Exception étant faite des fonctionnaires de la magistrature, de la justice, qui sont indépendants, sur lesquels le préfet n'a pas de pouvoir, sauf en ce qui concerne le parquet, ben, ça c'est trop compliqué pour vous l'expliquer, également l'armée, où le préfet n'a pas d'autorité sur les gens de l'armée, également sur l'éducation nationale. Le directeur et les inspecteurs d'académie ne sont pas sous l'autorité des préfets. Mais autrement, le préfet a le pouvoir hiérarchique sur tous les fonctionnaires du département, qu'ils soient des finances, des travaux publics, du trésor, de l'agriculture, enfin de différents secteurs qui peuvent exister. Et puis, vous avez le département, qui est une collectivité territoriale qui est plus importante sur le plan de l'étendue que les communes, mais qui est beaucoup moins sur le plan des attributions et des fonctions, car il fait assez peu de choses. Le département a une assemblée délibérante à sa tête qui s'appelle le Conseil Général, et à la tête du Conseil Général, il y a un président. Mais le président n'a aucun pouvoir, il a les mêmes pouvoirs que le président du Conseil Municipal de Paris. C'est-à-dire qu'il préside l'Assemblée, les débats de l'Assemblée, mais les travaux qui sont soumis à l'Assemblée et l'exécution des décisions appartiennent uniquement aux préfets et aux fonctionnaires de la préfecture qui sont des fonctionnaires d'État, et le président n'intervient absolument plus, il n'est pas l'organe exécutif du département, alors que le maire est l'organe exécutif de la commune. Mais, sur le plan du protocole, le président du Conseil Général est plus important que le maire.
Oui.
Est plus important que le maire. Sur le plan du protocole, en fait, non. Dans une grande ville, une ville comme Orléans, le maire joue un rôle qui est en fait beaucoup plus important que le président du Conseil Général parce qu'il est appelé à prendre des décisions importantes qui jouent même pour l'ensemble du département, car une ville comme Orléans, qui a l'agglomération orléanaise fait le tiers de la population du département, même un peu plus, par conséquent, et dans l'agglomération orléanaise, c'est la ville d'Orléans qui fait le deux tiers de la population, par conséquent, ce qui se passe à Orléans a un retentissement sur l'ensemble du département qui font que le principal personnage du département en dehors du préfet, c'est finalement le maire du chef-lieu, voyez-vous. C'est dans ce sens-là qu'il y a une hiérarchie qui existe, voyez-vous, que je voulais vous dire. Voilà. Et pour le reste, ce n'est pas très important. Je voulais, il y a un problème important en France, aussi sur le plan municipal, dont je voudrais quand même vous dire deux mots, c'est le problème des agglomérations. Je vous ai dit tout à l'heure que la France était divisée en 38 000 communes, mais vous avez des situations comme celle qui est celle d'Orléans, par exemple, où autour de la commune chef-lieu, vous avez un certain nombre de communes qui sont groupées, qui ne font plus en réalité qu'un seul ensemble urbain, mais qui est divisé administrativement dans une dizaine de communes, c'est le cas, oui, où il y a une dizaine de communes qui constituent l'ensemble urbain de l'agglomération, si bien que vous passez d'une commune qui entoure Orléans, hein, dans Orléans sans vous en apercevoir, mais c'est une gêne très grave pour l'équipement de l'agglomération et pour son avenir. Alors, il y a des mesures qui ont été prévues, il y a déjà quelque temps, par la loi municipale, qui est la constitution de syndicats entre les communes. Mais ces syndicats ont des vocations limitées, des fonctionnements qui sont difficiles parce qu'il faut constituer un syndicat, un comité syndical qui est lui-même composé de représentants des différentes communes. Chaque représentant doit rendre compte à son conseil municipal. C'est un fonctionnement très lourd et peu efficace. Alors le gouvernement actuel a prévu, dans un projet de loi, et même a obligé pour un certain nombre de grandes villes, Strasbourg, Lyon, Marseille et Lille, de constituer des agglomérations urbaines. Et ces agglomérations urbaines pourront être constituées dans des agglomérations qui ont plus de 50 000 habitants. Ce qui est le cas d'Orléans, et nous travaillons actuellement à cela, de façon à créer au-dessus des communes une administration qui prenne en main tous les problèmes communs à l'ensemble de l'agglomération, ce qui est le cas de la plupart des choses maintenant. Mais malheureusement, les communes sont extrêmement réticentes à l'égard de cela, parce qu'elles veulent conserver leur autonomie. La commune de Fleury-les-Aubrais ou de Saint-Jean-de-la-Ruelle, pour parler de l'autre qui environne Orléans, ont peur que par ce biais-là, on finisse par les faire disparaître. Et ceux qui en ont peur, ce ne sont pas tellement les habitants que les élus, qui sont très contents des conseillers municipaux ou d'être maires, et qui ont peur de voir leurs attributions diminuer ou leurs fonctions disparaître. Oui. Voilà en gros, voyez-vous.
Oui, je crois que je comprends. De votre point de vue personnel, est-ce que vous croyez que ces libertés locales doivent disparaître ou est-ce qu'elles doivent...
Je crois que le seul moyen de les maintenir, c'est de procéder à la constitution de ces agglomérations urbaines et même à la fusion des communes pour constituer des communes valables, des communes qui puissent administrer elles-mêmes, parce qu'autrement, dans le cas de l'agglomération orléanaise, comme il n'y a pas d'organisme commun pour les différentes villes, ce sont les fonctionnaires du départ de l'État qui sont en place, en poste.
Et des grandes villes, est-ce différent que... Enfin, on ne fait pas facilement cette fusion de ce point de vue-là.
C'est exact. Beaucoup des petites communes qui environnent une grande ville, ou alors dans les petites communes entre elles, il y a un petit particularisme qui vient de leur origine rurale. Je prends par exemple un certain nombre de communes, comme Sarran, qui est une commune qui est au nord. Voilà l'Orléans, ils ont compris la source. La source est beaucoup plus bas. La source part d'ici, mais cette partie-là est beaucoup plus bas. Alors, bon, vous avez ici Fleury-les-Aubrais, qui est une commune très urbanisée déjà. Enfin, relativement mal urbanisée, d'ailleurs, très bien urbanisée, mais urbanisée. Vous avez Sarran qui commence, qui a une superficie très importante, mais qui est très, 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 très rurale. Et vous allez au village de Sarran, vous êtes dans un petit village. Vous êtes dans un petit village, et l'on comprend que les gens qui sont là ne se sentent pas tellement habitants. Et ont leurs habitudes, qui est l'habitude des petites communes traditionnelles, voyez-vous. Et là, le fait est qu'il y a un problème psychologique qui est vrai, et par conséquent, il y a des étapes à prévoir, mais je crois que si l'on ne veut pas surmonter ces obstacles-là, l'État se substituera de plus en plus aux communes pour faire l'administration, parce qu'actuellement, ça serait une autre conférence, une véritable conférence qu'il faudrait que je fasse, mais il est très aisé à démontrer que la vie même de ces petites communes tienne maintenant à ce qu'Orient peut faire. Par exemple, le seul exemple le plus probant, et le plus clair, mais il y en a bien d'autres, c'est celui des égouts. On ne peut plus faire d'urbanisme maintenant sans avoir des égouts. Ça n'existe plus, ça. Orléans est très bien pourvu en ces égouts. Nous avons de très grands collecteurs, comme la pêche, notamment de canalisation, et les communes qui construisent des égouts sont obligées, elles ne peuvent pas faire autrement, de déverser leur propre canalisation dans le réseau d'Orléans.
Il y a d'autres problèmes d'équipement sans
beaucoup d'autres, mais l'équipement culturel, mais bien sûr l'enseignement aussi, les grands lycées sont à Orléans forcément, les établissements de théâtre sont à Orléans, seul Orléans n'a pas le moyen d'avoir un théâtre, et puis d'autres choses comme ça. Voilà, alors y avez-vous d'autres problèmes, d'autres questions à me poser?
Enfin oui, si vous disposez d'encore
quelques minutes. Oui, encore quelques minutes, je veux bien une dizaine de minutes.
Bon, alors je merci.
Je te souhaite d'être au moins bavard.
Non, enfin, je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes orléanais vous-même?
Non, je suis en fonction à Orléans depuis bientôt 12 ans.
Ah oui.
Mais je suis d'un département qui n'est pas très éloigné, je suis du Maine-et-Loire, Angers.
Ah oui. Ah oui.
J'étais avant fonctionnaire de préfecture. Je ne suis pas à l'origine moi-même un fonctionnaire communal.
Non.
J'étais avant un fonctionnaire de préfecture.
Ah oui, ça vous donne un tout autre point de vue sans doute.
Oui, ça m'a pris. Enfin, ça m'a fait passer, comme on dit, de l'autre côté de la barricade. Et j'ai constaté que, sur le plan du travail administratif, le travail municipal était beaucoup plus passionnant, parce que beaucoup plus concret, beaucoup plus près des vrais problèmes,
oui.
Et beaucoup plus humain.
Oui, oui. Oui. Et qu'est-ce qui vous. Quel est votre. Opinion, si je peux vous demander, d'Orléans même, hors comparaison avec vos fonctions dans d'autres villes.
Je ne comprends pas très bien la question.
Est-ce que vous croyez qu'Orléans a des caractéristiques particulières, comme en tant que ville?
En tant que ville?
Oui.
Oui, toutes les villes, vous savez, ont leurs caractéristiques. Et il y a dans toutes les villes à la fois des traditions sociales, des traditions caractère aussi qui était nos caractères. Orléans, voyez-vous, est une ville dont le principal mérite, à mon sens, c'est que le caractère y est positif, peut-être pas très imaginatif, mais positif, sérieux, et s'appliquant surtout à la réalité des problèmes à résoudre, plus qu'aux aspects politiques ou idéologiques. Et je vais vous en donner l'exemple, je suis en fonction depuis 1956. J'étais nommé ici à la fin de l'année 56 par un maire dont la majorité était à gauche et qui était lui-même membre du Parti Socialiste, qui était un ancien ministre socialiste, qui est mort maintenant. Voici d'ailleurs son portrait ici, une médaille, c'est le docteur Segel, qui est un homme qui jouissait ici d'une très très grande considération sur le plan moral, qui était un très grand résistant. Et c'est lui qui m'a nommé. Bon,
excusez-nous, c'était un petit bruit non voulu.
Oui. Le docteur Segel n'a pas été. Enfin, la majorité du docteur Segel n'a pas été réélu en 1959. La municipalité a changé et le maire est devenu M. Secrétin, qui était conseiller municipal avant. Il m'est devenu M. Secrétin, avec un conseil avec des adjoints, qu'on appelle le conseil d'administration, qui d'ailleurs comprend, car c'est à peu près le même maintenant, un certain nombre d'adjoints qu'avait déjà le docteur Segel, car le docteur Segel avait fait l'unanimité autour de lui. Bon, il y avait eu la bataille électorale, après il avait été élu maire par sa majorité, et puis après, dans son conseil d'administration, les adjoints des groupes de la minorité, des groupes... Il y avait des représentants des autres groupes, même des groupes adverses, parmi ces adjoints. Parce que, et quand le conseil municipal a changé, je peux dire qu'il n'y a eu aucune modification dans l'atmosphère municipale, dans la manière de travailler du conseil municipal, du conseil d'administration, des commissions municipales. Le maire, M. Secrétin, a bénéficié de possibilités nouvelles qui se créaient sur le plan national, puisqu'il y avait les problèmes financiers, les problèmes de reconstruction, c'était résolu. Et puis, il a aussi surtout bénéficié de ses immenses qualités personnelles, de son dynamisme, de ses qualités de travail, bien sûr, qui ont fait qu'Orléans a pris un essor considérable depuis qu'il est là. Mais sur le plan du fonctionnement même des services et du travail municipal, il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé, ça n'a pas apporté de modification sensible, parce que les Orléanais travaillaient déjà comme ils devaient le faire, et ils ont continué avec le nouveau maire comme on doit le faire. Et c'est une chose, et c'est, je crois, un des avantages importants d'Orléans, c'est ce climat de pondération, de modération et d'objectivité. Je le dis très, enfin, d'une façon qui, très impartiale, puisque je ne suis pas moi-même du tout un personnage politique, et que la politique municipale ne me regarde absolument pas. Je ne dis pas que comme nous sommes libres et que moi-même, le directeur des services techniques et mon adjoint, nous sommes admis dans les conseils d'administration, c'est-à-dire du maire et des adjoints, nous pouvons nous donner notre opinion très librement parce qu'on nous connaît, qu'on nous estime, qu'on a de la sympathie pour nous, mais normalement, nous pourrions ne pas être appelés du tout à le faire, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez, je ne suis donc pas étranger tout à fait à la politique municipale, parce que non seulement nos opinions techniques, nos opinions juridiques et administratives en considération, parce qu'il faut bien le faire, parce que ce qui est impossible à faire, on ne peut pas le faire, bien sûr. Mais même sur l'opportunité d'une réalisation, là, on ne se gêne pas pour donner notre avis, parce que ça se passe de façon très amicale. Et vous, je suis ici depuis 12 ans, il y a un certain nombre d'adjoints aux maires qui sont en fonction, que j'ai trouvé comme déjà adjoints aux maires et qui sont restés, avec lesquels je travaille régulièrement depuis 12 ans. Alors, par conséquent, il y a une atmosphère d'amitié qui existe. Et ce qui se passe en Orléans, ça peut exister aussi bien ailleurs. Mais le caractère peu politisé de l'action municipale est une chose qui est tout de même assez exceptionnelle. Et quelquefois, lorsqu'on me demande quelle est la tendance politique du conseil municipal, je dis aux gens, eh bien, si vous assistiez à même un nombre important de réunions du conseil municipal, vous ne pourriez pas vous en rendre compte. Vous ne le verrez pas.
Alors, sans doute au mois de mai, Orléans était peut-être assez calme.
Orléans était très calme au mois de mai. Il n'y a pas eu d'incident sérieux.
Non.
Il y en a eu un petit, puisqu'il y a un groupe de jeunes gens qui a cru nécessaire de faire comme on avait fait à l'Odéon, c'est-à-dire d'occuper le théâtre. Mais mon Dieu, j'y suis allé moi-même, le maire n'était pas là. Et voyez-vous, comme les rapports avec le maire sont très confiants, je n'ai aucun pouvoir de police. Merde, il dit ça. Enfin, le maire était absent, je lui ai téléphoné, enfin d'accord avec le préfet. Il m'a dit, oui, il lançait avec le commissaire central. J'ai expliqué à ces jeunes gens qu'ils s'étaient rendus coupables d'un certain nombre de délits et que le mieux qu'ils avaient à faire, c'était d'évacuer très vite. Parce qu'autrement, ils seraient évacués par la force publique et qu'il y aurait des poursuites. Comme ils n'étaient pas très nombreux et surtout pas méchants, je m'intéresse beaucoup à beaucoup de mouvements de jeunesse, sur le plan des étudiants en particulier, ils me connaissent. Alors, ils n'ont pas assisté. C'était le seul incident sérieux qu'il y a eu à Orléans. Autrement, il y a eu des défilés dans la ville, on a porté des motions, mais il n'y a eu rien du tout de fâcheux. C'est exact. Il n'y a pas de. L'agitation à Orléans n'existe à peu près pas. Même dans les périodes que, par exemple, au moment des affaires d'Algérie, où il y a eu tout de même une période très tendue, eh bien, Orléans était resté vraiment extrêmement calme. Et Orléans est une ville paisible par caractère, parce que les gens sont positifs. Il manque peut-être quelquefois d'imagination, il manque peut-être d'envolée idéaliste, si vous voulez, mais il y a son bon côté aussi. Voyez-vous ?
Alors, je pense que nous sommes venus au bout de notre temps, monsieur.
Oui, enfin, si vous avez encore une question,
Enfin, on aimerait vous parler pendant très longtemps, parce que enfin, ça nous intéresse et aussi très utile.
Oui.
Mais je ne sais pas si on oserait peut-être vous poser quelques questions personnelles.
Oui, si vous voulez.
Qu'on
avait
préparé, madame.
Oui.
Est-ce que je pourrais vous demander peut-être l'information que vous avez reçue?
Oui. Alors voilà. Personnellement, j'ai eu une formation plus universitaire. Je suis titulaire d'une licence d'enseignement de lettres classiques. J'ai appris le latin et le grec et je l'ai enseigné. Je les ai enseignés. Quelques temps. Et puis, j'ai décidé, pour des raisons personnelles, très variées, de rentrer dans l'administration et je suis devenu fonctionnaire de préfecture en 1937, ce qui prouve que je ne suis plus un jeune homme, malheureusement. Je suis devenu fonctionnaire de préfecture à Poitiers et j'ai continué à la suite d'un concours. D'un concours important, enfin difficile, parce que le grade qui existait à cette époque-là, c'était le grade de rédacteur, était un concours qui exigeait des connaissances du niveau de la licence en droit, voyez-vous. J'ai d'ailleurs fait du droit, j'avais fait une première année de licence en droit, puis je n'ai pas pu faire en même temps tout, parce que je n'avais peut-être pas assez. Et puis, mais enfin, le concours que j'ai dû préparer était un concours d'un niveau certain, surtout sur le plan juridique. Alors j'ai reçu ce concours et j'étais devenu fonctionnaire d'État, fonctionnaire de préfecture. Et puis, j'ai exercé mes fonctions à Poitiers, ensuite à Angers, qui était mon pays d'origine. Je suis revenu à la faveur de la guerre, de l'occupation, enfin, c'était des problèmes personnels. Et j'ai appris en 1956, à la fin de 1956, que le poste de secrétaire général de cette ville était vacant. Je me suis renseigné sur l'intérêt que ça pouvait présenter, au point de vue matériel, car je suis père de 5 enfants, et les problèmes matériels ne peuvent pas m'être indifférents. Et j'ai demandé ce poste et je l'ai obtenu. J'étais candidat à ce poste et je l'ai obtenu et parce que j'ai trouvé tout de suite un avantage matériel important en venant ici, dans une ville de l'importance d'Orléans. Et puis je me suis aperçu aussi tout de suite, très très vite, que sur le plan moral, sur le plan de l'intérêt professionnel, c'était également beaucoup beaucoup plus intéressant aussi. Je veux dire, c'est un métier beaucoup plus passionnant où j'ai personnellement beaucoup plus de responsabilités. Beaucoup plus de travail aussi, mais plus de responsabilité, plus de liberté de manœuvre et de contact avec des problèmes concrets que, à la solution desquels j'ai l'impression, bien entendu, de participer. Sur le plan humain, c'est très intéressant. J'ai tout de même un problème personnel important, puisqu'il y a près de 1500 personnes qui travaillent dans le plan de la mairie. Je suis leur chef de tout le monde. Et ce sont des problèmes, c'est une tâche qui est lourde, mais enfin qui présente même un très grand intérêt.
On voit bien que vous ne disposez pas de beaucoup de loisirs, monsieur. Est-ce que vous avez le temps de lire quelques journaux et...
Oui, oui, j'ai tout de même le temps. Il y a bien entendu les revues professionnelles, vous en avez ici, qui sont là. Qui s'appelle le moniteur des travaux publics, mais ça contient beaucoup de renseignements sur le plan juridique et administratif. Là, j'étais en vacances, j'arrive il y a 4 jours que je suis rentré, j'ai trouvé cela. J'essaie de le lire. Même le journal officiel, vous qui êtes ici, vous n'avez pas, qui est là, que je n'ai pas pris le temps de regarder. Bien sûr, j'ai le temps, il faut bien que je prenne le temps, mais pas autant que je le voudrais. Sur le plan personnel, j'ai beaucoup de soucis, des problèmes culturels. Avant, quand j'étais fonctionnaire de préfecture, j'avais beaucoup plus de loisirs. Et, par exemple, je faisais de la critique littéraire. Je publiais très régulièrement dans le journal d'Angers, des chroniques littéraires, et même, j'aurais peut-être pu devenir journaliste si je l'avais souhaité. Enfin, je ne voulais pas lâcher mes fonctions administratives et la stabilité du fonctionnaire pour quelque chose qui l'était moins. Mais enfin, pour vous dire que j'ai tout de même des goûts sur ce plan-là, je faisais même ma critique musicale des concerts, voyez-vous. Bien entendu, ici, ça n'est plus possible. Il m'arrive même de promettre à des amis de faire des comptes rendus des livres qu'ils écrivent, et puis je ne tiens plus mes promesses. Alors, il peut les tenir, parce que, ou alors il faudrait que je fasse quelque chose de rapide, de pas sérieux, et ça, je ne peux pas le faire, je ne le fais pas. Mais je lis la presse locale parce qu'il faut que je me tienne au courant de ce qui est dit, de ce qui se passe dans la ville, bien entendu, ça c'est vite fait. Mon journal, si ça peut vous intéresser, c'est Le Monde. Depuis que Le Monde est monde, si j'ose dire, depuis 1944 qu'il paraît, déjà avant la guerre, je lisais le journal qui a précédé Le Monde, qui s'appelait Le Temps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce journal, qui est un journal admirablement bien fait, plus conservateur que Le Monde, beaucoup plus conservateur, tout en ayant des côtés d'objectivité très grands. Le Monde, Le Temps avec une grande tenue. Le Monde est plus dans le siècle, si j'ose dire, que ne l'était Le Temps. Enfin, mon journal, c'est Le Monde. Et vous savez, la lecture du Monde est déjà quelque chose, est déjà une épreuve. Alors, si bien qu'il arrive ceci, c'est que je n'ai pas toujours le temps tous les jours. Par exemple, hier soir, je ne suis pas rentré, j'ai été invité à dîner, parce que ça s'est trouvé comme ça, pour des gens qui passaient, que nous recevions, qui m'ont demandé si je voulais présenter la municipalité à un dîner qui existait. Bon, ça m'était arrivé parce que je retrouvais des amis d'Angers, justement, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Eh bien, je serais rentré chez moi, j'aurais acheté le journal en passant, Le Monde, et puis j'aurais passé 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 demi-heure, selon la substance, à lire. je n'ai pas fait, si bien qu'il est sur ma table maintenant, il y aura encore celui de ce soir. Et alors je vois pas ça, des articles très importants, de gens que je connais, alors je les coche au crayon rouge et puis je lirai ça quand je pourrai. Puis des fois je crois que je... Alors en ce qui concerne les livres, bien vous savez, j'en lis plus beaucoup maintenant, alors que je voudrais, et là je profite surtout des vacances pour le faire, même passer 3 semaines en Suisse, où j'ai lu des livres importants, j'ai lu Nietzsche, car j'étais en Suisse, dans le pays où il avait passé ses vacances, alors c'était la bonne occasion de se remettre un peu à Nietzsche, que j'avais bien perdu depuis longtemps. J'ai lu les gentils mémoires de M. Malraux, j'ai encore derrière moi, voyez-vous. J'ai lu cette revue Esprit sur les événements de mai, parce que je voulais voir un peu comment il voyait les choses, et puis des différents livres. Enfin, je lis quand même, j'ai toujours quelques livres qui sont partis, et le soir, bien, quand on dormit, je lis un petit peu.
À part les vacances, quittez-vous souvent la ville d'Orléans ?
Pas très souvent. Non, pas très souvent. Surtout qu'ici, pratiquement, je peux. Vous savez, les week-ends, je ne les prends pas. Par exemple, le samedi, la mairie est fermée. Mais moi, je suis obligé de m'y parler.
Ah.
Oui, parce que je n'arrive pas, surtout en fin de semaine, j'ai trop de choses que je n'ai pas pu faire, ou que j'ai mises en attente, parce que des choses plus urgentes me pressaient. Et le samedi, je suis tranquille, alors c'est là que je remets mes affaires en ordre, et puis ça recommence. Alors, vous savez, évidemment, de temps en temps, ça m'arrive, mais mon régime de travail est très différent de celui de l'ensemble du personnel. Nous sommes un certain nombre à être comme cela. Le directeur des services techniques, par exemple, l'adjoint. Et alors, nous avons, les uns et les autres, quelquefois des tâches accessoires. Par exemple, l'adjoint, qui est docteur en droit, enseigne au collège de droit de la ville des matières administratives. Bon, moi personnellement, je dirige ici les stages de perfectionnement des cadres supérieurs des agents des villes. Ça se tient à Orléans, c'est un organisme national, vous l'avez peut-être dit la dernière fois, il y a environ, ce sont des sessions, des stages de 2 mois, où on reçoit de 22 à 25 fonctionnaires, qui sont des secrétaires généraux de ville, ou secrétaires généraux adjoints de ville, évidemment moins importante en général qu'Orléans, mais enfin, des ingénieurs aussi, des chefs de bureau, des chefs de service, qui viennent là pour recevoir un perfectionnement d'un niveau supérieur. Alors c'est fait par une association nationale, qui s'appelle l'Association nationale d'études municipales, qui est gérée par des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, avec l'accord de l'Association des maires de France. Mais ça se passe à Orléans, et ce sont des universitaires, ou des hauts fonctionnaires, des conseillers d'État, des hauts magistrats qui viennent faire des conférences, des cours, et l'organisation, c'est moi qui en suis chargé. Alors évidemment, c'est une tâche qui me demande du temps aussi, et il faut que je me consacre, que je ne fais pas gratuitement d'ailleurs, je veux le dire, c'est parce que je ne suis pas désintéressé complètement, mais enfin, il faut trouver le temps de le faire. Hein. Et alors dans un métier comme celui-ci, on n'a jamais épuisé, c'est pas possible. Et alors, il faut souvent faire face à des choses immédiates.
Oui.
C'est pas et même de jour comme de nuit. Il peut se passer des incidents dans la nuit pour laquelle on réveille, une petite catastrophe, une grande, une maison qui s'écroule et qui s'est arrivée avec des gens qui sont dedans. Il y a vraiment des mesures à prendre immédiatement, des maisons qui ont brûlé, il faut loger les gens immédiatement, et tout de suite on vient à la mairie pour savoir ce qu'il faut. Alors les agents qui s'en sont occupés, les sapeurs-pompiers par exemple, appellent le téléphone tout de suite en disant voilà ce qui se passe, bien à 1h ou 2h du matin, il faut que je vous parle, pas de voiture, etc. Ça n'arrive pas toutes les semaines, bien sûr, mais enfin, c'est des choses qui arrivent. Bon.
Bon, alors je vous remercie beaucoup.
Oui, nous allons vraiment terminer maintenant que vous avez été.
Voilà.
Merci, monsieur. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci.
Il en sera fait quoi de ce que je viens de vous dire ?
Oh non.
Qu'est-ce que vous en ferez de ce que je viens de vous dire ?
On espère plus tard analyser du point de vue linguistique.
Oui.
Le français parlé.
Oui, c'est ça, oui. Mais je pense. J'espère que ça n'en donnera pas une trop mauvaise impression.
Oh, non, sûrement pas. Nous, ce que nous n'acceptons pas, c'est qu'il y ait un français correct et un français incorrect.
Oui, 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 oui.
Il y a beaucoup de français qui parlent de plusieurs manières différentes.
Oui.
Et c'est cela que nous cherchons.
Oui, oui, bien sûr, mais ça c'est inévitable. Vous savez, vous enregistreriez les propos que nous tenons, par exemple, à la table familiale, bien, vous n'auriez pas du tout le même style que celui que vous venez d'avoir ici.
Tant plus
que vous n'auriez le même style si vous entendez le maire dans une déclaration devant le conseil municipal. Toutes les déclarations publiques où il faut qu'il s'observe, tant plus que le maire a des qualités littéraires profondes, aussi, car c'est un homme de lettres, d'un haut niveau. Et il s'exprime avec une élégance, un choix, une qualité.